dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Et voilà, à Sébastopol, ils ont fait la révolution. Mon grand-père était un mutin de la mer Noire et j'ai toujours connu le foulard noir des anarchistes, petite écharpe là, toujours, été comme hiver. Et mon père, qui était à la nature, a pris 20 ans par coutumance. Entre parenthèses, il n'a jamais été amnistié. Jamais. La police française a débarqué un matin chez le copain. Le copain est parti par les toits. Ma mère, elle n'a pas pu. Elle s'est fait arrêter. Et voilà, après, elles ont été à Romainville et de Romainville à Ravensbrück. La vie est un long combat. Hein. C'est... Voilà, si, on y arrivera un jour. On y arrivera un jour, s'il y a.
Aujourd'hui, Dissonance donne la parole à Jacques Neurigat. Un retour sur son parcours de vie qui va de la rencontre avec son grand-père, l'anarchiste au foulard noir, mutin de la mer Noire en 1919, un des fondateurs du Parti communiste aveyronnais en 1921, éternel rebelle entre les deux guerres, puis arrêté à Millau pour activité de résistance et condamné à 5 ans de prison avant d'être déporté au camp de concentration de Dachau. Le père de Jacques, résistant aussi, recherché par la police de Vichy, ira combattre aux côtés des maquisards cévenols. Quant à sa mère, elle n'est pas en reste et, résistante aussi, terminera la guerre dans l'enceinte du camp de concentration de Ravensbrück. Un récit tendre et émouvant de Jacques Neurigat, nous faisant revivre une sacrée tranche de vie dont les combats du passé résonnent encore avec l'actualité. La vie est un long combat, témoignage de Jacques Neurigat sur Dissonance.
Les grands-parents, un grand-père paternel, libertaire, qui a été un des fondateurs du Parti communiste en Aveyron, au début. Sa femme, ma grand-mère maternelle, était d'obédience un peu radicale, mais de gauche quand même, des laïcs. Mon grand-père n'a jamais été baptisé. Mon grand-père s'appelait Louis-Pierre Marius. Ma grand-mère s'appelait Juliette, dit la Grise, parce que je l'ai toujours connu avec les cheveux gris. Mon grand-père, c'était l'amiral. Je vous expliquerai pourquoi après. Et puis, du côté de ma mère, qui s'appelait Bringue, Odette, mon grand-père maternel était à côté du Viala du Tar. Et ma grand-mère maternelle était de Saint-Romain-le-Tar, une fraisse. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de frais, ça c'est Rome de tard. Et voilà, donc mes grands-parents paternels ont donné naissance à un fils unique. Hein. Mon père, Louis, ils n'ont pas voulu d'autres enfants parce qu'ils ne voulaient pas faire, ils voulaient pas des enfants qui fassent la guerre. Et ma mère est née d'une. Elles étaient trois frangines. Des gantiers, tout ça travaillait dans les cuirs épaules, les grands-parents, et ici à Millau, tout le monde était dans les cuirs épaules. Hein. Sauf mon grand-père maternel, qui était rentré à la mairie de Millau, et qui était serrurier. Et pour petite information, la grille qu'il y a devant le lavoir romain, enfin dit romain, il n'est pas romain du tout, boulevard de l'Hérole, c'est mon grand-père qui l'a forgé. Si vous la voyez, vous allez voir le travail que c'est exceptionnel. Mais ce n'était pas trop un vaillant, hein, le travail. Voilà, et puis mon grand-père paternel était mégissier-corroyeur. Mais vu ses idées, il a été souvent viré par les patrons. Alors il a fait maçon, il a fait agriculteur, il travaillait, il plantait des arbres, il faisait tout un tas de choses.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets, des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitants, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeuses, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Alors, mon grand-père, l'amiral, est né le 4 novembre 1899. Il était du siècle dernier, même de l'autre du siècle. C'était un antimilitariste, un libertaire. Pourquoi ? Il avait une grosse culture, il lisait tout un tas de choses. Moi, j'ai vu chez lui des écrits de Jaurès, de tout. À la maison, alors qu'il habitait dans une deux pièces, rue du Puy, impasse du Puy Neuf, pas de chiottes. C'était vraiment. Mais alors il lisait. Il lisait. Je me souviens quand j'étais gamin, le soir il descendait la lampe et il lisait L'Humanité. Et il commençait par Pif le chien. C'est un espagnol qui a fait Pif le chien.
Arnal,
voilà. Et puis bon, il s'est éduqué sur un tas de trucs. Et puis bon, la guerre, ça le dégoûtait, mais il voyait ses amis, qui étaient un peu plus âgés que lui, partir dans les tranchées. Il y en a qui revenaient complètement bousillés, il y en a qui revenaient jamais. Et contrairement à ses idées, il a dit, moi je ne veux pas aller dans les tranchées. Il s'est engagé. Il s'est engagé dans la marine. Il n'avait jamais vu la mer. Il s'est engagé volontaire le 20 janvier 1918, pour 3 ans. Il a été apprenti marin. Il a fait ses classes à Ourthain, c'est à côté de Bordeaux. Il a été le centre de formation de la marine. Et après, en janvier 19, il est parti à Toulon embarqué sur le Jean Bar. Tout de suite, départ pour la mer Noire. Alors, il n'avait jamais vu la mer. Pour lui, c'était quelque chose qui... Et donc, il a passé le Bosphore. Alors, quand j'étais gamin, il me racontait le Bosphore. Il voyait ça, Istanbul, Constantinople. Il n'avait jamais vu, jamais vu. Et dans le Bosphore, il a commencé à avoir des accrochages avec l'armée, avec la marine anglaise. Il était, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur le bateau, avec des phares là, il faisait des signaux. Voilà. Alors un jour, le commandant leur dit, il lui dit, tu as qu'à dire aux Anglais qu'ils nous emmerdent. Ah, quand même, moi, je peux pas. Toc, toc, il a dit aux Anglais qu'ils emmerdaient. Déjà, il est anti-américain, anti-anglais. Et puis après, il est arrivé à Sébastopol, où, bien entendu, l'armée française voulait soutenir le tsar. C'était pas encore... Bon, il y avait eu la révolution en Russie. C'était pas encore l'Union soviétique, mais enfin, bon, il avait ses idées. Il était dans un groupe de libertaires. Et il a rencontré, bon, c'était un petit, hein, c'était pas le meneur, mais il a rencontré Marty,
André Marty,
ouais, avec qui il a collaboré modestement, hein, et voilà, à Sébastopol, ils ont fait la révolution.
Oui, puisqu'il y a l'aventure des mutins de la mer Noire, et ton grand-père en faisait partie de ces mutins.
Voilà, voilà, voilà. Mon grand-père était un mutin de la mer Noire, et alors, bien entendu, comme il avait pris 3 ans d'engagement, il était obligé de les faire.
Et donc, ces mutins de la mer Noire, ils refusaient de se battre contre...
Contre les bolcheviks. C'est exactement... Parce que pour eux, c'était la classe ouvrière contre la classe ouvrière. Sur ces bateaux, pourquoi on n'en sait rien, mais ils avaient mis que des ouvriers, des trucs comme ça. Et alors, paradoxalement, ça, c'est une chose que j'ai lue ultérieurement... Il y a un des commandants du Jean Bar qui est passé avec eux. Ceux qui n'ont pas voulu passer avec eux, ils les ont balancés à la mer. Ils sont rentrés à la nage. Et voilà, et donc après ça, comme il avait pris 3 ans d'engagement, on l'a envoyé à Madagascar faire du maintien de l'ordre. Et bon, là-bas, il se bronzait, on va dire, hein. Et puis il a été démobilisé le 21 janvier 1921. Donc il a fait exactement 3 ans de...
Et la révolte sur le Jean Bar devant Sébastopol, ça ne lui a pas coûté des peines de prison des...
Ben si, mais bon, il a fait la peine à Madagascar. C'était pas une prison dorée, parce qu'il était là-bas, et il grattait les cailloux, il repeignait les bâtiments... Il n'a pas été, mais c'est quand même dans son dossier.
Il se baladait avec un foulard noir autour du cou,
tu disais. Mon grand-père, je l'ai toujours connu, le foulard noir des anarchistes, petite écharpe là, toujours, été comme hiver. Et alors on l'avait baptisé l'amiral. Ses copains l'avaient été l'amiral, parce qu'il était amiral de rien du tout. Il était deuxième classe, certainement. Je ne sais pas si ça existe à la marine. L'amiral, Amio, tout le monde connaissait l'amiral. Et il était membre des anciens mutins de la mer Noire. Et puis, ben, il a continué. Il a continué à militer.
Au Parti communiste, alors.
Et bien, oui, en 1921, il a été un des fondateurs du Parti communiste en Aveyron. Ben, il y avait avec lui... le père de Michel Delmouly, qui était de Decazeville, ou d'Aubin, ou de Decazeville, je ne sais pas. Et il y avait Mouissette, qui a été maire d'Aubin. Et sur Mio, alors ils étaient plusieurs, il y avait Marcel Reynal, qui ultérieurement a eu des emmerdes aussi, avec mon grand-père. Il y avait Rouvelette. Et voilà, il en a profité de faire mon père, qui est né en 1921, Louis.
La vie est un long combat, témoignage de Jacques Noirigat sur Dissonance. À
À l'Élysée, M. Albert Sarraut, accompagné de ses collaborateurs, vient remettre au président de la République la démission du cabinet. Quelques instants plus tard, M. Léon Blum est appelé par M. Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère.
Et donc après, il y a eu le Front Populaire, et qu'il a vécu aussi intensément ici en Aveyron.
Ah ben oui, il avait le Front Populaire, il y a eu les grèves, tout le bazar. En 32, alors là, je ne sais pas trop les dates, dans les années 35-36, eh bien, il avait déjà un peu de bouteille, et il ramassait des fonds pour la République espagnole. Il avait des contacts avec des camarades espagnols et tout. Et puis après, bon, vous savez l'histoire, quand les Espagnols sont repartis, ont été la retirada, eh bien, on en a accueilli ici, à Millau, chez mes grands-parents maternels aussi. J'ai des documents, des photos à ce sujet. Des gens que je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Des gamins, hein, beaucoup de gamins, des gens de 15-20 ans. Et voilà. Et puis bon, comme il ne pouvait pas fermer sa gueule, il a continué.
Et il a continué, mais après, les Allemands sont arrivés, les nazis.
Eh bien oui, les nazis sont arrivés. Alors pas les Allemands. Parce que mes parents n'ont jamais été anti-allemands, ni anti-Bosch, ni... Ils étaient anti-fascistes, anti-nazis. Alors les nazis sont arrivés, ils ont occupé Millau, il y a eu la drôle de guerre, et ils étaient un groupe de militants sur Millau, très réduit. Hein. C'était la résistance.
Et très repéré aussi, j'imagine.
Et très repéré, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, ils ont distribué des tracts, des affiches, ils faisaient des réseaux pour pas que les gens partent en STO. Enfin, malheureusement, ils n'étaient pas écoutés. Oui, vous les communistes, vous voulez perdre la France, nous on part là-bas, et puis il y a des prisonniers qui reviendront, et vous verrez, ça ira mieux. Tu parles. J'ai un frère à mon grand-père, Norigat, que je tairai le prénom, qui est parti en Allemagne. Ils ont failli se battre avec mon grand-père. Et il est sur le monument aux morts. Ouais. Il n'est pas mort d'un coup de fusil. Hein. Ça, mon père, qui était une mauvaise langue, dit « Je sais de quoi il est mort.
» Voilà. Il avait des contacts. Il y avait un groupe constitué ici de communistes à Millau dans les années 40 qui avait des contacts avec les résistances.
Ah oui, oui, oui. Enfin, c'était pas une grosse résistance, hein, parce que sur toute la France, la résistance, elle n'existait pas. Il y avait un petit groupe au Montna, où c'est qu'il y avait un petit bataillon. C'était des gens, c'était des résistants. Ils voulaient surtout pas aller en STO, ils voulaient pas aller en Allemagne, donc ils faisaient du bois, ils se planquaient. Et voilà. Et c'était... Mais la résistance à Millau, c'était 8-10 bonhommes, hein. C'était... Il y avait 6 communistes. Les Norigat, ma mère, Breng, Claude de Bessières, Marcel Reynal, Rouvelette, les Laporte, qui étaient un couple de pâtissiers extrêmement connus. Il y avait aussi, comment il s'appelle, qui était... Alors, eux, c'était pas des communistes, il y avait... qui était pâtissier rue droite. Je me souviens pas du nom, là. Un autre aussi, qui était petit fabricant de gants. Il y avait Alfred Merle, que tout Millau connaît. Hein. C'était... Mais ils se connaissaient, ils travaillaient un peu ensemble. Alfred Merle est quelqu'un d'extraordinaire, hein. Protestant, directeur de l'usine Buscarlet, qui a été torturé, c'était quelqu'un de... Puis il y avait le collabo aussi. Alors là, vous cherchez un peu, vous trouverez. Hein, le vin du Domas Gassac, par exemple. Mais je ne dirai pas le nom, bien qu'il ait été quand même président de la Chambre de commerce de Millau, qui a fait passer la circulaire... pour dénoncer les juifs dans les entreprises. Je l'ai, la circulaire, je te la montrerai. Bah, il y avait aussi la plus grande entreprise de Mio, qui, eux, ils ont joué sur les deux trucs. D'un côté, ils fournissaient des vêtements, du cuir pour les nazis, et d'autre côté, ils prêtaient les camions. Jonquette. Ils ont des boulevards à Mio à leur nom. Voilà, alors la résistance à Mio après s'est organisée autour de... Il y avait... Oh les noms, j'aurais dû les marquer. Aldoza. Aldoza qui était un socialiste, qui a été un des responsables de la résistance à Mio, qui a été un type qui s'est bien défendu. Puis après, bien entendu, il est parti du Parti Socialiste, il est passé au Parti Communiste, il est mort. Et la résistance à Mio, on ne sait pas grand-chose, enfin nous, les Norigates, parce que comme on a été obligés, mes parents ont été obligés de se tirer. Allez.
Erste Reihe, vorwärts, marsch!
Le 27 septembre 1941, ils ont été un petit groupe, ils étaient quatre, hein. Ils distribuaient des tracts pour le Parti communiste, contre la guerre et tout le bazar. Ils ont été arrêtés, donc il y avait mon grand-père, l'amiral, mon père, Dibise, il y avait André Talis et André Covigne. Tous les deux étaient membres du Parti communiste. Alors, ils ont été arrêtés commement. Ils distribuaient des tracts. Le flic qui les a arrêtés, je dis son nom, c'est Ange Albert, le roi de la pince, qui faisait de la lutte gréco-romaine. Et c'était l'entraîneur physique de mon père, qui faisait aussi de la lutte gréco-romaine. Je vous ai reconnu, Norigat père, Norigat fils, Talis Covigne, demain au commissariat. Ouais, mon père a dit non, moi je ne vais pas au flic. Hein. Il avait 20 ans. Hein. Les trois autres couillons, ils ont été au commissariat.
Ton grand-père aussi.
Mon grand-père, hein. Talis et Covigne. Et donc, arrêté, prison de Mio, tribunal de Montpellier, tribunal d'exception. Talis et Covigne ont pris 3 ans avec confiscation des biens et des droits civiques, présent et à venir. Mon grand-père a pris 5 ans, confiscation des biens présents et à venir et droits civiques. Et mon père, qui était à la nature, a pris 20 ans par coutumance. Entre parenthèses, il n'a jamais été amnistié. Jamais. Jamais. Et voilà, alors bon, mon grand-père, l'amiral, est parti en tôle. Il a fait Mio, Montpellier, Saint-Étienne, où c'est qu'il a rencontré et milité avec Sanguedols, qui était le maire communiste de Saint-Étienne après la guerre. Il ne pouvait pas se tenir peinard. Ace, dans le Lot-et-Garonne, centrale. Là, ils se sont mutinés.
C'était les années pendant la guerre, ça.
Hein? Ah oui. Ils se sont mutinés. La mutinerie a raté parce qu'ils avaient des contacts avec la résistance extérieure. Mais bon, le Lot-et-Garonne, il y avait des résistants. Alors là, le wagon, et après, ils se sont montés Compiègne et Dachau. Et voilà, il a fait 44 mois en tout.
Il est arrivé à quelle époque à Dachau, au camp de concentration?
43, 40, 44 même. 44, oui.
Il t'a raconté ces années de concentration?
Ah, mon grand-père, il est décédé en 66. J'étais quand même, j'avais 15 ans, mais j'étais un peu un gamin. Il racontait, c'était dur quand même. Maman, c'est pareil, elle s'usait. C'était dur de raconter. Mais bon, il racontait, donc il a travaillé à Dachau. Il était dans un camp parallèle de Dachau qui s'appelle Alak. C'était une usine. Et il a travaillé pour Michel Schmidt, le fabricant d'avions. Alors ça, par contre, il me racontait. On nous envoyait les radiateurs des avions. Il fallait les souder. Nous, on faisait ça comme des salauds. Et voilà, il a été libéré par les troupes américaines, alors là je ne sais pas trop, le 26 ou le 27 ou le 28 avril 1945. Et il est revenu, il n'était pas très en forme, et il est revenu à Mio, et il était malade, il a repris de son travail de mégissier corroyeur. Plusieurs fois il a été viré par les patrons parce que CGT, Parti communiste, il a fait maçon, ouvrier agricole. Il a été un des fondateurs de l'Union Mutualiste Miavoise et il prend la retraite en novembre 1965. Il avait 65 ans et il est mort en août 66 après avoir fait tout ce qu'il a fait.
Il n'y avait pas de l'amertume au retour de recôtoyer le flic qu'il avait dénoncé, les gens qui avaient collaboré et qui avaient encore pignon sur rue.
Si, mais bon, les copains du Parti communiste disent à mon père, il faut le descendre, le collabo. Mon père a dit, on va le descendre, il y en aura d'autres qui arriveront. Et ça a été, le descendre. Parce qu'il y a des endroits où ils ont descendu, les collabos. Mais après, tu étais, par exemple, à la prison d'Aïs, dans le Lot-et-Garonne, c'est à Villeneuve-sur-Lot. Une année, mon grand-père y va, et à une fenêtre de la prison, « Ouais, vive le Parti communiste, tout le salaud !» Qu'est-ce que c'est ce mec? C'est le fou. Le fou, pourquoi le fou? Et bien, à la libération, il s'est fait justice lui-même, il a été condamné. Mon père, Louis, Bise, comme disait tout le monde, qui lui a été dans les maquis, dans la résistance, qui avait été condamné à 20 ans de travaux forcés, il est parti, donc, quand il est parti de Millau, il ne savait pas où aller. Il est parti, donc le lendemain du coup avec Ange Albert, il s'est planqué à Massebio, dans une maison, une vieille maison. Elle existe encore, j'ai été la prendre en photo. La dame qui le cachait avait pris de sacrés risques. Et puis, le parti, avec Claude Bessières, lui dit « Bon, ben, t'as trouvé une solution, il faut que tu partes. Tu pars à Marseille. » À Marseille? Mais je connais personne à Marseille. Donc, un matin, il a pris son sac à dos, il est monté par le Roubaixlier. En haut du Roubaixlier, le car de la Populaire, conduit par Portal, qui était un mec qui était neutre. Il a pris Bise, il l'a mené à Montpellier, de Montpellier jusqu'à Marseille, il s'est démerdé, et à Marseille, il est arrivé. Alors, il a trouvé des coins ici, là-bas. Il a travaillé à Marseille pendant des clandestinement. Hein. Il a travaillé à faire le tunnel du Rove, sous Marseille. Et puis, ça sentait mauvais pour lui. Et il avait un contact dans les Cévennes. Il est remonté sur Alès, et là, il est rentré donc dans le maquis de Rascalon, qui était le responsable du maquis Égual Cévennes. Et là, il a milité, il s'est battu, il a fait Saint-Hippolyte du Fort, Ganges. Quand j'étais gamin, il me cassait les pieds. Tous les dimanches, on allait dans les Cévennes. Alors tu vois, là, j'avais un fusil mitrailleur et tout. Il était à la salle exactement.
C'était le maquis de Chabrol et compagnie.
Il y avait Chabrol avec lui.
Jean-Pierre Chabrol.
Ouais, le grand écrivain Jean-Pierre, que j'ai eu à ma maison, qui est venu ici, Jean-Pierre Chabrol, qui était le mari de Noël Vincenzini, cette dame que je connais, qui est encore vivante, était en prison avec ma mère.
La vie est un long combat, témoignage de Jacques Noyriga sur Dissonance.
Ta mère aussi, elle a eu des quelques mailles à partir avec la Gestapo.
Ah oui, mais ma mère étant la copine de mon père, hein, elle était aussi, je crois pas qu'elle était au PC à l'époque, non. Mais elle était militante CGT, les flics, elle les avait toujours à la maison. Et un jour, Claude Bessières, toujours Claude Bessières, qui était un mec extraordinaire, un peu casse-cou, mais un mec bien. Il lui dit, il faut que tu partes, Odette. Tire-toi. Alors, elle est partie à Montpellier, à Béziers. Très peu de contacts. Elle faisait partir des FTP. Son réseau, ils avaient coincé un train du côté de Bédarieux, avec la complicité de la CNSF. Enfin, ce n'était pas encore la CNSF. Mais les cheminots, c'était aussi des sacrés résistants. Ils ont débarqué tout le monde. Ils ont lâché le train qui est rentré dans la gare de Béziers, qui a foutu toute la véranda par terre. Et alors là, ils ont serré les fesses, tout le monde est parti dans un coin. Ma mère a été se planquer à Montpellier. Et là, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Elle était chez un copain. La police française, parce que tous ils ont été emmerdés par la police française, hein, faut pas oublier ça. La police française a débarqué un matin chez le copain est parti par les toits, ma mère elle a pas pu, elle s'est fait arrêter, elle a nié, elle a dit moi je faisais le tapin, ce monsieur, tu parles, elle est passée à la 32e à Montpellier, c'était la prison de Montpellier, elle a pris quelques claques sur le museau et pire encore, elle n'a pas tout dit, je pense. Et là, elle a rencontré ce qu'elle appelait les filles, des copines qu'elle s'est fait, qui sont restées toujours ensemble. Alors, il y avait Noël Vincenzini, que je connais. Il y avait, alors les noms après de famille, je ne me rappelle plus, Nane Barrault, de son nom de marié, Jotte Poune. Et en prison... Donc, pareil, Noël Vincenzini a raconté dans un livre qui s'appelle « Morceau de sucre ou autre récit » à acheter impérativement. Et voilà, après, elles ont été à Romainville et de Romainville à Ravensbrück.
Ravensbrück, camp de concentration.
Camp de concentration, voilà. Et après, le travailler dans des usines, toutes plus ou moins, elles essayaient de ne pas se perdre. Elle a travaillé pour Siemens. Il existe toujours. Et puis, elles ont été libérées. Alors là, la libération, le camp de concentration, l'armée rouge, pilonnée de sans cesse. Et ils sont partis sur les routes. Alors, les nazis marchaient au milieu de la route et les prisonniers au bord pour protéger. Quand Suze racontait les avions russes piquaient sur les convois avec un bruit et ils tiraient pas, ils savaient qu'il y avait des... Et allez, ils partaient. Un jour, elles ont dit, bon, allez, on se tire. Elles sont parties, le groupe toujours. Elles ont fait suivre deux ou trois soviétiques, les appelaient les petites russes. Elles ont été dans une ferme qui était abandonnée. Quand elles sont rentrées là, elles étaient maigres comme des coucous. Elles ont tout pillé, elles ont bouffé tout ce qui traînait. Elles ont tout cassé. Et elles se sont endormies 2, 3, 4 nuits, je ne sais pas trop. Un matin, les Russes n'y étaient plus. Merde, elles sont parties. Donc elles se sont cachées. Et elles entendent des chars arriver. Et c'était des chars soviétiques. Avec le drapeau rouge et tout, et les Russes qui étaient là et tout. Et alors une anecdote qui est superbe, je la montrerai à Joseph. Quand les Russes, les premiers soldats qu'elles ont vus, c'est les soldats russes, soviétiques, elles leur ont arraché les boutons des capotes. Et j'ai un bouton de capote du soviétique qui a sauvé ma mère.
Ravensbrück, c'était un camp de femmes.
C'était un camp.
Elle t'en a parlé de. Elle y a passé combien de temps?
Elle y a passé. le fameux hiver 44-45, elle est partie de Montpellier à l'automne 44, elle a été libérée le 1er mai 1945, 1er mai. Quoi. Et après, bon, ben, retour en France, compliqué.
Mais elle te parlait de ces quelques mois passés, de ces longs mois passés à Ravensbrück avec les femmes.
Alors ça a été compliqué. Au départ, c'est tous, c'est pas que Suze, c'est tous, personne n'en parlait. Et puis petit à petit, les militantes, elles ont fait des conférences, elles en ont parlé à des élèves dans des écoles. Et Suze, elle s'est donnée à fond dans des écoles de l'Aveyron, de Millau. On a été dans le Tar. Dans le Tar, parce que les Français ils disent le Tarneux. Et on faisait des conférences, je l'ai toujours aidée, soutenue, mais elle ne racontait pas des conneries, hein. Elle racontait la vérité vraie, et petit à petit elle s'est ouverte, bon, je pense qu'elle est décédée avec des choses qu'on ne sait pas, les choses les plus horribles. Il y a des choses qui l'ont marquée, par exemple, quand elle était à la 32e à Montpellier, on la faisait mettre à genoux sur une règle. Et il y avait un ou deux flics bien costauds qui montaient sur les épaules.
Des Français.
Il y a eu tout un tas de trucs, des conneries qui ont été faites. Et quand on tombait des femmes parce qu'elles avaient couché avec des Allemands, mais c'était de la connerie.
Et ta mère était une des dernières femmes survivantes avec Madame Vincenzini.
Ah ben oui, ma mère a été l'avant-dernière et Noël est toujours vivante, 96 ans. Elle a été déportée, Noël, elle avait 17 ans.
Noël, c'était l'épouse de Jean-Pierre Chavrol.
Voilà, 17 ans. Et maman était la plus vieille, elle avait 25 ans. Elle a fêté ses 25 ans dans le camp de concentration. J'ai des petits documents sympas que je montrerai à Joseph, je ne sais pas, un jour, peut-être qu'on fera quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai toujours le costume de Magnard, avec son numéro, le vrai. Hein. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Il faudra que je le donne à un musée. Voilà. Si on y arrivera un jour, est-ce qu'on y arrivera par les urnes? Ça, j'y crois moins. Par la violence, il faut faire attention aussi.
Donc tu as toujours l'espoir?
Ouais, je ne le verrai pas, hein. J'ai 70 ans. J'ai l'espoir, j'aimerais que la guerre s'arrête. Qu'on se foute des baffes, oui, sur les terrains de rugby. Je suis un ancien joueur de rugby. Là, c'est bon, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'était l'abbé Pistre qui disait ça. Mais bon, c'est la connerie, les marchands d'armes. Je me suis allumé. Un jour, je vais à la fête de l'humanité à Paris, fête du Parti communiste. Premier stand qu'on voit, l'armement de Tarbes. CGT armement. Alors, j'ai été un peu les titillés. Il me dit, oui, mais c'est notre gagne-pain. Mais j'ai dit, mais fabriquer des charrues, nom de Dieu.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'en fait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Le soir, quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bomba, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis jamais rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton devant le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en supprimant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
La vie est un long combat, témoignage de Jacques Noyrigat sur Dissonance.
Comment tu réagis, même si j'ai une petite idée, quand tu te balades sur le marché de Millau, que tu trouves quelqu'un qui tient un stand où il y a des bouquins qui font l'apologie de, oui, du nazisme, hein.
Ben, j'ai réagi, j'ai été un des rares à mal réagir. J'ai été le titiller, le garçon. Je sais qu'il avait déballé à Sainte-Afrique, à Saint-Rome-de-Tar. À Sainte-Afrique, il revient, il y est de nouveau. À Millau, Madame le maire de Millau, qui est une personne pour qui je n'ai pas voté, mais que j'estime bien, elle y a envoyé les flics. Et un jour, j'y étais sur place. Il arrive 5 flics en tenue, donc un officier et une nana des renseignements généraux. Le mec, il me dit « Ah, t'es content, hein, t'as appelé les flics, c'est ça les communistes ?» Oh, j'y attends. Alors l'officier, il me dit « Écoutez, il me connaissait. » On va s'écarter, il me dit « qu'est-ce que vous appelez ?» Il me dit « je suis d'accord avec vous, mais le problème, il est commerçant, il a une patente de commerçant, il a le droit de vendre les livres qui sont dans le commerce. » Et il me dit « mais entre ça et en faire l'apologie, c'est quand même... voilà. » Alors bon, on est parti, les flics, alors ils rigolaient. « Ah, c'est toi qui es parti, j'écoute-moi petit con, déjà tu me tutoies pas, hein ?» Et quand on est parti, au saxophone, il nous a fait la Marseillaise. Alors, la nana des renseignements généraux m'a dit « Il va jusqu'au bout, hein. » Ben, j'ai dit « Ouais. » Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça aurait été à l'époque de mon père, hein. Il ne serait pas tenu une demi-journée.
Et puis, on n'a pas parlé de ton parcours. Tu es resté aussi dans le monde ouvrier.
Alors j'ai fait 13 boulots différents. J'ai commencé, mais je voulais faire la révolution, bien entendu. J'ai été en première. Puis en première, j'ai dit à mon père, je veux travailler. Je veux faire la révolution. J'avais fait la révolution, mais tu verras que tu as tombé de haut. Alors mes parents avaient une librairie papeterie journaux rue Jean Moulin. Et je travaillais là un petit peu, puis j'ai fait mégissier, puis j'ai fait maçon, puis je suis parti à Paris. Je voulais faire aide-commissaire-priseur. Et oui, comme j'aimais les vieilles choses, hein, tu parles, je suis resté 3 mois, et puis après j'ai... Pouf, pouf, pouf. Alors j'ai été travailler barman, restaurateur, j'ai été fait livreur. Je suis revenu à Millau parce que je joue au rugby et j'aime ça. Et là-haut, je suis rentré à la poste. Quand je suis demandé à la poste, quand est-ce que je redescends à Millau ? C'est où Millau ? Eh bien, c'est dans le midi. Alors, on me dit, dans 20 ans, au-dessous de la Loire. Oh putain, quand j'ai vu que la Loire, elle passait à Orléans, j'ai dit, je m'en vais. Non, à Nevers. Je m'en vais. J'ai démissionné. Et voilà. Et puis je suis revenu à Millau, alors j'ai fait routier, transporteur, déménageur, livreur. Et je me suis un peu cassé le dos. Et puis comme j'aimais les vieilles choses, un jour je me suis lancé un pellierote. Non, brocanteur, antiquaire, avec beaucoup de bonheur, parce que j'ai gagné ma vie modestement, mais j'ai appris un tas de choses sur la peinture, sur l'art, j'étais intéressé partout.
Et toujours syndicaliste ?
Ah mais quand j'étais commerçant, non. J'ai été viré de la CGT quand même.
Ah, raconte-nous.
Quand le camarade de Dias, Manuel, qui était radical socialiste, il y avait l'Union de la gauche, et il s'est fait élire à Millau, c'est les petits cerveaux du rubis qui ont voté pour lui. Et un jour, la mégisserie Galtier, rue du Pont-de-Fer, était occupée par les salariés, et c'était un peu à la con, quoi. Il y avait des cégétistes, des CFDtistes, et lui et de Ruy viennent parader, là, au nom de l'Union de la gauche. Tout le monde a fermé sa gueule, hein. Et les camarades de la CGT me disent, mais pourquoi tu n'es pas rentré dedans? J'ai dit, oh, pas attention, hein. Moi je suis à la CGT, mais je ne suis pas responsable, hein. Et je ne savais pas trop par rapport à ce qui se passait, quoi. Ouh, alors il s'allume, j'ai dit, vous m'emmerdez, je suis parti, j'ai payé ma carte, parce que j'étais aussi représentant de commerce. Le seul et unique syndiqué à la CGT de l'Aveyron. J'ai la carte numéro 1. Parce que j'ai vendu des livres au porte-à-porte. Là, j'ai fait fortune. Un an et demi, j'ai vendu une encyclopédie Larousse. Puis après, j'ai vendu des produits surgelés. Mes clients étaient sur le Larzac, Bruguière, Maillet. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu viens de nous emmerder? On en cultive, nous. On élève des poulets. Quoi.
Et après, tu es resté au PC? Non, tu en as démissionné au bout d'un moment.
Je suis parti du PC. Je suis resté proche du PC. Il n'y a pas de problème. Mais je ne suis plus au PC. Et même mon père avait laissé sa carte. Alors, mon père, il a été pareil comme moi. Quoi. Il a été maoïste. Il était correspondant de Pékin Information. Ils envoyaient des livres, des journaux, avec des timbres magnifiques. Et puis, bon, il y a eu le problème de l'Union de la gauche, il y a eu le problème d'Alstuzer, j'en avais marre.
Alors, comment tu te situes maintenant? Dernière question, Jacques. Toujours un combattant?
Un combattant mou. Ouais, là, je sais pas. Aux prochaines élections, ça fait 11 ans que j'ai pas mis un bulletin dans l'urne. La dernière fois que j'ai mis un bulletin dans l'urne, ben j'ai voté pour moi, puisque j'étais avec la LCR sur la liste des municipales. Et puis, bon, là, je pense que au premier tour, je vais voter Roussel. Et au second tour, je serai en vacances à Alicante. Alors c'est con, hein, je pourrais peut-être pas voter au second tour.
Merci beaucoup, Jacques.
Santa Barbara bendita, frailarai larai, tralarai. Santa Barbara bendita, trailarai larai, tralarai. Patrona de los mineros, mirai, mirai, Marusiña, mirai. Mirai como vengo yo.
Cette émission est à réécouter sur les ondes de Radio Sainte-Afrique ainsi que sur le site dissonance.ovh où elle peut être téléchargée afin de l'écouter quand et où cela vous dit.
En el pozo María Luisa.
Salut
et fraternité.
En el pozo María Luisa. Murieron cuatro mineros, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. Murieron cuatro mineros, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. Traigo la camisa roja.
trai-la-rai, trai-la-rai. Traigo la garganta rota, trai-la-rai, la-rai, trai-la-rai. De gritar por lo que es nuestro, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. De gritar por lo que es nuestro, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. Me cago en los capataces, trai la rai la rai, trai la rai. Me cago en los capataces, trai la rai la rai, trai la rai. Accionistas y esquirones, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. Accionistas y esquirones, mirai, mirai, Marusiña, mirai, mirai como vengo yo. Me cago en la monarquía, trai la rai la rai, trai la rai. Me cago en
mira, mira.